Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un petit peu abordé par Michel. C'est complémentaire. Ça va recouper un petit peu. Et puis, je vais commencer par lire un texte un peu fondateur de Deutéronome, qui est Deutéronome 6, 1 à 7. Voilà. Voici les commandements et les lois que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà. Donc, c'est mon introduction concernant la transmission, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire à partir de ce texte. J'ai une petite question déjà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas lire? Une personne? Bon, deux? Bon, on peut, hein, mais en fait, le seul petit point, c'est que Dieu nous a donné la Bible sur un support écrit. Donc même quand on n'aime pas lire, eh bien, ça aide de se forcer un petit peu, parce qu'il y a de vrais trésors à chercher. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour ceux qui aiment lire naturellement, mais il y a beaucoup à tirer comme trésor dans l'enseignement de la Bible, si Dieu a pris la peine de l'écrire directement, comme il l'a fait auprès de Moïse. Après, ça a été écrit quand les suivants ont pu s'entraîner un petit peu plus. Eh bien, c'est un des supports de transmission que Dieu nous a donné, la Bible, de manière écrite. Donc, la lecture, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a encore tous ces supports qui ont traversé les ans. Ça fait 5000 ans que voilà, la loi a été donnée à Moïse, et puis elle est toujours l'esprit de la loi est toujours vivant dans nos cœurs aujourd'hui. On va prendre un verset dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, pour savoir transmettre, il nous faut des modèles, hein. André parle souvent de modèles. Donc voilà, un des modèles que nous a donné Dieu il y a 5000 ans, c'est l'écriture. On peut transmettre par l'écriture, et beaucoup va passer aux générations suivantes par les écrits qu'on va laisser. Et si on écrit, eh bien, des choses qui construisent, qui édifient, eh bien, ça va rester au-delà de notre génération. Mais bon, pour autant, ce n'est pas le seul modèle, hein. Il y a d'autres modèles. De transmission, on va prendre par exemple dans l'éducation, qui est un autre modèle de transmission. Alors là aussi, une petite question, est-ce qu'il y a des parents qui ont réussi l'éducation de leurs enfants du premier coup? Tout le monde? Voilà. Si y en a, je veux bien prendre des petits conseils. Enfin, si vous les trouvez, vous me prévenez. C'est bien. On pourra parler, j'aurai des petits conseils à prendre. Donc, non, tout ça pour dire que il y a effectivement on peut transmettre beaucoup à des enfants, pas seulement les nôtres. Ça peut être les enfants des autres, ça peut être les amis, la famille. Il y a tout un tas de situations dans lesquelles on est enfant. Donc, ce message ne s'adresse pas qu'aux parents. Il s'adresse aux professeurs, aux éducateurs, à tous ceux qui ont à cœur de parler de l'évangile, donc à tout le monde en fait. Voilà. Parce que ce qu'on a, on l'a reçu. 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc c'est très important cette transmission de ce qu'on a déjà eu. Tout ce que vous voulez, dans Matthieu 7, 12, que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je ne développe pas cette partie, mais voilà, Jésus a beaucoup enseigné là-dessus. Donc transmettre des informations, un savoir-faire, un savoir-vivre, une culture, c'est parfois long, c'est compliqué, c'est semé d'embûches, mais pour enseigner quelque chose à un enfant, à un jeune, un stagiaire, parfois ce sont de gros efforts. Hein. Je me suis retrouvé dans beaucoup de situations où j'ai essayé de transmettre quelque chose, j'aurais été beaucoup plus vite à le faire moi-même, mais si Dieu a pris le temps avec nous, avec une patience extraordinaire de nous enseigner encore et encore. Il a donné beaucoup d'images avec le peuple d'Israël, qui est aussi une préfiguration, mais qui est le même cœur de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc Dieu est patient avec nous, il nous enseigne, et il veut qu'on fasse de même, parce que c'est, comme on a vu, on reçoit, donc on donne. Donc, il y a un des modèles que Jésus nous a montré, c'est de faire des disciples. Donc, il avait un certain nombre de disciples. À un moment, il en a envoyé 70. Puis après, il a repris un nombre plus restreint pour parler de cœur à cœur avec eux. Il aurait pu faire les choses beaucoup plus vite. Hein. Il est Dieu. Donc, au lieu de se démultiplier, au lieu de faire tous les miracles et tout à notre place, eh bien, il a choisi une autre voie, il a choisi 12 disciples avec qui il a échangé de cœur à cœur, il a investi du temps, il a investi dans les relations, il a pris vraiment, il a livré son cœur, alors que, voilà, il n'était pas obligé, il a quitté le ciel pour venir jusqu'à nous, il n'a pas seulement accompli l'œuvre de la croix, ça c'est un point fondamental, mais il a pris une partie importante de son ministère, c'est un ministère de transmission, un ministère d'amour, un ministère où il investit dans les relations. Alors, d'ailleurs, il y a, pour ceux qui veulent, ceux qui connaissent Nathan Lambert, il y a une vidéo sur Top Chrétien qui parle de ce principe. Entre ceux qui veulent faire l'évangélisation par leur propre force quasiment, et puis ceux qui, au contraire, vont investir pour former d'autres à leur tour, des disciples, faire vraiment des disciples. Il y a aussi une formation qui a eu lieu à l'église séminaire Équipe, qui est disponible sur le site internet. Donc ceux qui veulent le réécouter ou l'écouter, n'hésitez pas. Il est dans la partie privée, mais n'hésitez pas à demander si vous. C'est vraiment édifiant. Donc, pourquoi c'est si important de transmettre en investissant dans les relations? Eh bien, si on fait les choses par soi-même, seul, le savoir que j'ai reçu, parce qu'on l'a reçu, ce savoir, d'autres ont investi, et nous, on va arrêter cette chaîne de transmission. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il nous l'a montré, il l'a vécu, ce ne sont pas que des paroles. Il l'a vécu auprès de nous, et donc, ce serait embêtant d'être le premier à interrompre cette chaîne de transmission de valeurs, de la foi, de beaucoup de choses. On parle souvent des choses spirituelles, mais tout est spirituel. Jésus dit que donner un verre d'eau à un enfant qui a soif, c'est spirituel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut transmettre et qui sont importantes aux yeux du Seigneur et importantes pour ceux qui les reçoivent. Ça peut être des enfants, ça peut être des plus âgés, des adultes. Parce que si on revient aux enfants, il y a certains parents qui disent « Bon, moi, je vais les laisser libres, les enfants. Je vais pas les influencer, je vais leur laisser prendre leurs propres décisions. » Alors, bon, s'ils ne les enseignent pas dans les voies du Seigneur, par contre, un autre va s'en charger. C'est son métier. Si on n'enseigne pas dès tout petit aux enfants, Voilà, même si le diable les rate, il est trop, mettons qu'il soit trop occupé, bah, la chair s'en chargera. Hein. Il y a qu'à voir un tout petit enfant, si jamais il a faim, qu'il est frustré et tout, les colères qu'il fait, la nature charnelle montre les dents très rapidement. Alors ceux qui, par exemple, ont encore quelques illusions quant à la nature déchue de l'homme, qui ont même, je dirais, une vision rousseauiste, hein, puisque Rousseau, c'est lui qui affirme que les enfants naissent, l'homme naît naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Alors oui, il y a une partie de la société qui le corrompt, mais les enfants qui naissent naturellement bons, c'est exactement l'inverse de ce que nous enseigne la Bible. Et donc, s'ils fondent des traités d'éducation, comme il l'a fait, sur des valeurs qui sont absolument contraires à ce qui nous est enseigné dans la Bible, eh bien, on ne s'étonnera pas que les idées de Rousseau aient fait des dégâts dans notre société. Il y a le pasteur Luc Bussière qui était venu nous parler d'éducation. Là aussi, c'est disponible. Je vous invite à l'écouter, à réécouter, et puis il y a aussi les supports qui sont très intéressants, et voir tous les dégâts que ça a fait dans la société française jusqu'à nos jours, les germes de la Révolution. Je ne développe pas, c'est vraiment très intéressant. Y a un exemple dans la littérature, d'ailleurs, qui, à mon sens, illustre bien cette légende de l'enfant bon. Je ne sais pas si vous connaissez « 2 ans de vacances » de Jules Verne. Donc, c'est un livre où il y a des enfants qui se retrouvent seuls sur une île parce que le bateau a dérivé, et ils s'organisent et donc ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le même thème, alors c'est pas un bateau, c'est un avion, c'est un petit peu plus tard, c'est William Golding, Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies. Et donc du coup, là, c'est une vision plus réaliste, plus pessimiste, mais les enfants commencent bien et puis ça finit très mal, parce que les enfants livrés à eux-mêmes, ils ont besoin à un moment d'une autorité, et ce qui arrête le mal de se prolonger, c'est l'arrivée des soldats qui ont fini par les retrouver. Enfin voilà, ça existe en livre et en film pour ceux qui n'aime pas trop la lecture. C'est en noir et blanc, mais c'est intéressant à voir. Donc c'est pour ça que le verset de Deutéronome, c'est pas un simple conseil, c'est une injonction, notamment pour les raisons qu'on vient de voir. C'est vraiment important de transmettre ça dès le plus jeune âge aux enfants, les bonnes choses que Dieu nous a données. Voilà, donc si on revient à mon exemple de tout à l'heure avec Jésus qui a investi dans ses disciples, on a vu qu'il n'avait pas besoin de nous. Il nous a donné une mission de dominer sur la terre, de nommer des animaux, tout ça il sait le faire. Il n'a vraiment pas besoin de nous pour ça, et pourtant il l'a fait. Ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre compréhension, mais Dieu a un cœur qui est plus grand que le nôtre. Il nous a impliqués dans son œuvre. Il a des projets, il a dit qu'il nous préparait des maisons, il a dit qu'il nous donnerait, pour les plus fidèles, des missions à gérer des villes, par exemple. Voilà, eh bien, tout cela, ce n'est pas compréhensible à vue humaine, mais c'est le plan de Dieu et c'est le meilleur. Donc, si on recolle un petit peu avec David, on peut dire qu'il a partiellement échoué, en tout cas dans la partie de transmettre à ses enfants, Michel en a longuement parlé, c'est vrai que ça peut paraître triste, ceci dit, il avait quelques petites excuses. On va voir les modèles qu'il a eus, parce qu'il a eu plusieurs mentors. Alors, on peut citer déjà son père. Son père qui oublie tout de même de le présenter à Samuel, c'est embêtant. S'il n'a pas oublié, ça montre le peu de considération qu'il avait pour lui. Il y avait Samuel aussi. Alors, il a transmis beaucoup de bonnes choses, Samuel, mais Samuel, ses fils sont corrompus et cupides. Leur père devait être trop occupé, peut-être, pour prendre soin d'eux et de leur transmettre les valeurs du royaume. On voit ça dans 1 Samuel 8:3, que vous voyez apparaître. C'est un écueil qui est assez présent chez tous ceux qui travaillent beaucoup, y compris les serviteurs du Seigneur. Voilà, on est vite très occupé. Je crois qu'on est tous concernés par le fait de se forcer de temps en temps à prendre du temps avec nos enfants. On a aussi Saül, qui est un drôle de mentor, puisqu'il lui enseigne notamment l'art d'embrocher les gens contre les parois, à ses dépens. Bon, heureusement, il ne s'est pas prêté jusqu'au bout de l'exercice, il a pu éviter, mais. Voilà, parmi les autres choses qu'il lui transmet, menacer, maudire, persécuter, faire tout ce qui lui passe par la tête, sans filtre, au lieu de soumettre tout ça au Seigneur. Voilà, bon, c'est. Il y a des modèles qu'a reçus David qui ne sont pas parfaits. On se demande d'ailleurs d'où Jonathan a trouvé sa foi et sa droiture, parce qu'il. Il n'a pas le même caractère que son père, il est vraiment très axé sur les plans de Dieu. Ah ben voilà, c'est fort probable. Les mères, c'est vrai que les mères ont un rôle souvent fondamental dans la transmission des valeurs et même de la manière d'appliquer la parole de Dieu. Alors aussi parmi les autres mentors, on peut citer Achish. Un roi quand même ennemi d'Israël, on fait mieux comme référence. Mais bon, voilà, tous ces gens-là ont eu une influence, hein, un petit, à divers degrés, dans la vie de David. Donc, c'est. Voilà, à mon avis, faute d'un modèle selon Dieu, une bonne relation de père à enfant, David a quand même eu quelques lacunes. Il s'est laissé un peu porter par les événements. Sans vraiment tisser de relations étroites avec ses enfants. Parce que pour pouvoir transmettre quelque chose à ses enfants, il faut un projet. David, visiblement, n'avait pas de projet ou c'était pas bien clair. Ce qui était plus clair, c'est que pour David, les enfants, bah, c'était mieux de les concevoir que de les élever derrière. Que multiplier les conquêtes féminines, ça c'est quelque chose qu'il a fait plus spontanément. Voilà. D'ailleurs, parmi ses enfants, on le sent un petit peu distant physiquement. Il fait appeler ses enfants, on se demande s'il n'en oublie pas un de temps en temps. Bien qu'il les aime à sa manière, il les aime. Donc concernant le style de vie de David, là aussi je parlais d'absence de projet. On voit que les différentes femmes et concubines qu'il a eues, bah, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Il s'est laissé porter par les événements. Par exemple, voilà, suite à la mort de Nabal, il récupère sa femme Abigaël ou. Voilà, il n'y a pas de projet vraiment réfléchi, mais ça a des conséquences derrière, ça a des conséquences entre les enfants, entre leurs relations, ça a des conséquences entre les parents et les enfants. Et voilà, ça peut tout ce qui n'est pas l'objet d'un projet, bah, ça peut créer des problèmes dans les couples, la famille, les relations, les ex, toutes ces choses-là. Ça peut aller jusqu'à l'explosion de la famille. Alors heureusement, il y a la grâce et. Voilà, on vit dans une société où on a maintenant toute la parole, hein, que n'avait pas à l'époque David. Et heureusement, le Seigneur fait grâce et il permet de reconstruire. Et c'est encore mieux quand on peut chercher dès le départ à fonder un projet de famille. Et heureusement que le Seigneur a toujours un plan de secours, même si nous, on est défaillant, le Seigneur nous donne, il fait toutes choses nouvelles. Donc, il y a la grâce. David, a beaucoup fait appel à la grâce de Dieu. On peut dire qu'il était un peu précurseur, un peu en avance. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, il est prophète aussi, il annonce Jésus, donc il avait ce cœur selon Dieu. Par contre, dans le domaine des enfants, là, on ne le voit pas beaucoup faire des prières en appelant à la grâce du Seigneur. Il appelle à la grâce du Seigneur pour beaucoup de choses, mais pour ses enfants, c'est pas comme... il n'a pas cette préoccupation. Par exemple, dans la Bible, on voit un qui offrait des sacrifices pour ses enfants régulièrement, c'était Job. Alors, c'est pas exactement la grâce, mais... Enfin, il avait une préoccupation pour ses enfants. Pourvu qu'ils ne pêchent pas, il prenait plein de précautions pour ses enfants. Enfin, voilà, c'est juste des caractères différents. Il y a, à mon avis, David qui a raté cet aspect-là, qu'après lui, il y avait la suite du plan de Dieu. Donc, il faut être conscient que des plus jeunes que nous, on les influence toujours jusqu'à un certain point, ils ont leur autonomie, mais tout ce qu'on peut semer de bon dans leur vie, eh bien, va porter, s'ils sont réceptifs, beaucoup de fruits. David a quand même transmis des choses à Salomon. Il a transmis pas mal de conseils, mais ça s'est pas fait, c'est pas quelque chose, au début il avait pas en tête, il pensait probablement que ce serait Absalom, et puis voilà, puis après que ce serait Adonia, enfin tous ses plans ont été un peu chamboulés, et puis c'est vraiment en dernière minute, alors ils sont bons hein, les conseils qu'il donne, mais là aussi je disais, il se laisse porter par les événements, il semble moins... demander à Dieu pour cette partie-là. Là aussi, ça peut être lié à le fait d'avoir plusieurs femmes, d'avoir des enfants qui ne sont pas dans tout ça, de vivre un peu avec les uns, un peu avec les autres, etc. Ça fait un mode de vie qui n'est pas forcément propice à prendre du temps avec ses enfants. Puis voilà, c'est un modèle qui perdure aussi, le fait d'être le roi, de montrer son pouvoir. C'est pas seulement dans certains pays arriérés que ça se passe encore de nos jours. C'est un modèle que reproduisent certains hommes. Mais c'est pas d'ailleurs pas que les hommes. Il y a des femmes hein, qui font parler aussi d'elles en mal dans l'actualité, comme elle s'appelle Ghislaine Maxwell. Voilà, il y a des scandales un petit peu. Ce sont les mêmes schémas, mais qui perdurent jusqu'à maintenant et qui ont tendance à se multiplier. Quand on cherche plutôt la jouissance immédiate, le pouvoir, l'attrait des plaisirs de ce monde, plutôt que de s'ancrer solidement dans la parole et de nourrir ce projet, de chercher le projet de Dieu. Pas que pour nous, mais pour ceux qui nous entourent aussi. Alors, c'est vrai que si on revient à David, c'est un homme. Pour certains hommes, c'est un peu plus difficile que pour une femme, chez qui c'est plus naturel d'échanger, de parler, de prendre dans ses bras, d'encourager, de faire des câlins, d'exprimer son amour directement. On peut être parfois bloqué en tant qu'homme parce que c'est peut-être plus facile, mais on ne les aime pas moins quand ils grandissent, mais souvent on le dit moins. Voilà, donc ça peut être... Dieu ne nous aime pas moins quand on grandit. Donc voilà, on peut partir de ce modèle-là et pas laisser, disons, des traits de caractère, des influences du blocage, quoi, qui sont pas la nature et le cœur de Dieu. D'ailleurs, il y a les cinq langages de l'amour dont Sonif et Olivier ont fait un atelier. Ça peut être, n'hésitez pas à leur demander, pour communiquer mieux de l'amour à ses enfants, il y a différentes manières, ils peuvent vous aider là-dedans. Voilà, donc Au niveau de cette relation avec les enfants, hein, Michel nous l'a déjà montré, David c'est plutôt un taiseux. Tout est très implicite. La manière dont il parle à ses enfants, c'est loin d'être très direct. On va prendre ce passage, c'est pas celui-là. Voilà. Par exemple, le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité, mais ça s'arrête là. C'est une colère très intérieure, hein. Lui qui d'habitude ne se gêne pas pour oxyre tous ceux qui ne lui plaisent pas. Il voulait, quand Nabal ne faisait pas ce qu'il voulait, là, il était prêt, il était chaud. Mais alors, pour ce qui est de reprendre ses enfants, c'est pas la même chose. Il a un caractère qui est différent entre sa propre famille et puis les autres personnes extérieures à sa famille. Mais bon, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu dans la lignée d'Isaïe qui reprenait assez mollement ses fils. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Bon, c'est léger. L'Éternel, Dieu l'a repris hein, pour ça. Mais ce qui est dommage, c'est que ses enfants sont morts. Les conséquences, il y a le libre arbitre des enfants et puis il y a les parents qui ont cette capacité à les orienter du bon côté. Après, on réussit pas toujours, hein, on est créé libre. Les enfants font leur propre choix, mais au moins notre responsabilité, c'est de les enseigner selon le Seigneur. Isaïe, Samuel, David, on a quand même un schéma de transmission. Ils ont tous les trois ce problème avec les enfants de pas forcément d'être assez de montrer assez d'autorité avec eux, alors que l'autorité ils l'avaient hein, quand il s'agissait de confronter d'autres que leur propre famille, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils étaient bien équipés pour ça. Donc David, lui, bon, il aime ses enfants à sa manière, hein, comme j'ai dit, mais c'est un petit peu voilà, doucement avec le jeune Absalom, quand on voit ce qu'il a fait. Pourtant, quand Absalom est mort, après, il prend le deuil d'une manière aussi sincère qu'ostentatoire. Hein, il est vraiment touché, il est très triste, il a perdu un fils qu'il aimait beaucoup malgré ce qu'il lui a fait. Voilà, donc c'est un trait de sa personnalité. Il était tellement végétatif que Joab a dû le secouer là, pour le sortir de cet état-là et qu'il reprenne son rôle de roi et qu'il avance pour pas. Bah, il avait sa mission à continuer pour diriger Israël. La Bible ne le mentionne pas explicitement, mais j'ai l'impression que il avait du mal à parler, dire directement les choses comme à ses enfants, je t'aime, à ses fils particulièrement. Il l'a souvent sous-entendu par ses actions, ses actes, mais est-ce qu'ils l'ont bien reçu? Voilà, donc de même hein, pour les grands-parents, les oncles, les tantes. Dire je t'aime directement, c'est pas toujours facile. Et pourtant, on les aime, hein, ces petits. S'il y a quelque chose d'important à transmettre, hein, on lisait en introduction, c'est l'amour de Dieu. On rappelle dans Deutéronome 6, 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a à transmettre. D'ailleurs, je vais appeler Johan, si tu veux bien venir. Il sait pas ce que je vais lui demander. Est-ce que tu sais que je t'aime?
Oui.
Comment le sais-tu?
Bah, parce que tu me l'as dit.
Est-ce que je te l'ai dit? Je l'ai dit comment? En français?
Oui.
Dans d'autres langues aussi?
Peut-être.
Eh bien, je te le redis et je t'aime beaucoup.
Moi aussi.
Voilà, donc c'est pour montrer qu'on peut être concret dans la manière. Là, c'est en 2 secondes, mais voilà, ça se construit tous les jours. Johan n'est pas très bavard, mais c'est pas grave. Je crois que l'image est passée quand même. Merci. Donc je reprends un des versets qu'Alexis avait cité. Dans 1 Roi 3,14, « Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Donc c'est un beau témoignage hein, de Dieu en faveur de David, parce que c'est Dieu lui-même hein, qui parle ainsi de David. Il ne mentionne pas ses péchés, il ne mentionne pas ses faiblesses. On voit qu'il y a la grâce qui est passée par là. Alors, je fais une petite parenthèse. Dans les milieux chrétiens, il y a une petite phrase qui circule. C'est que Dieu connaît tes péchés. Enfin, le diable, on va prendre à l'envers. Le diable connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Dis-toi, t'es un pécheur, t'es ci, t'es ça. Mais Dieu, il connaît tes péchés, mais il t'appelle par ton nom. Il te donne même un nouveau nom, comme Alexis l'avait mentionné. Donc, c'est voilà, on revient tout à l'heure à la grâce. Dieu fait toute chose nouvelle et il rétablit tout ce qui est marqué par le péché. Alors, si on revient au thème de la transmission, on a vu avec l'épisode d'Absalom que, visiblement, il y a plusieurs principes de la parole qui ne sont pas passés hein, de David à Absalom, comme le respect du roi, le respect de son père, le respect des concubines de son père. Donc, pour faire simple, il y a des pans entiers de la loi qui sont purement et simplement ignorés. Et c'est pareil pour son deuxième fils, Adonia. On va voir dans 1 Roi 1.5, Adonia, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi !» Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Je crois que hop, je suis un peu emberlificoté. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire, enfin c'est terrible parce que ça veut dire que David a quand même complètement raté l'éducation de son fils Adonia, de sa vie. Il a pas fait un reproche. On voit ce que ça a donné. Michel nous l'a suffisamment montré. Donc lui aussi, Adonia, encouragé par un si beau modèle de son père, il pense qu'il suffit d'être beau pour être roi, qu'on va multiplier les conquêtes et que tout va bien. Mais il laisse libre cours à son orgueil. Donc comme je l'ai déjà dit, David aime ses enfants. On l'a vu dans 2 Samuel 18, hein, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et quand il apprend sa mort, donc il dit « mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, mon fils, mon fils ?» Bon, c'est une redite hein, de ce que j'ai dit, mais il les aime à sa manière, il exprime pas facilement, il verbalise pas facilement, mais voilà, c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on manifeste notre amour, en laissant les autres deviner. Dieu nous donne son amour de différentes manières. Il le déclare tout au long de la Bible. Il ne change pas, c'est un amour depuis toujours et pour toujours. Et donc, il veut que nous manifestions le même caractère, et notamment quand on doit reprendre nos enfants, c'est important. Alors, ce n'est pas dans l'air du temps, mais dans Proverbes Ah voilà, là j'y étais, raté. Proverbe 13, 24, celui qui ménage sa verge. Waouh, c'est pas bon ça. Je sais pas comment on revient. Oui. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Alors, il ne s'agit pas de lui faire du mal, il s'agit de le corriger pour qu'il devienne meilleur. La société, je pense, ne comprend pas forcément ça. Il faut dire que, comme beaucoup se sont éloignés des principes corrigés, ils ne mettent pas forcément le même sens que quelqu'un qui le fait dans l'amour. Donc, par extension, même si ça a moins d'impact que sur son propre enfant, ben ça reste valable pour l'enfant d'un autre, si toutefois il accepte la correction. En tant que membre de la famille, amis, parents, professeurs, éducateurs, etc., on a tous un rôle à jouer dans la vie des plus jeunes. Et parfois, on peut se dire que le message n'est pas passé, qu'on s'y est mal pris. Là aussi, est-ce qu'il y en a qui arrivent à passer les messages exactement comme ils les pensent? Moi, j'y arrive pas. Mais c'est pas grave. On parlait de la grâce du Seigneur. Même si on pense qu'on s'y est mal pris, même si on rate des choses, il en restera toujours quelque chose. Si c'est fait vraiment de tout cœur pour faire passer quelque chose de la part du Seigneur. On est tous en chemin. Ça prend des années. C'est pas... C'est, voilà, en tant que personne qui transmet, personne qui reçoit, on a tous des efforts à faire, mais on va y arriver parce que le Seigneur est avec nous. Là aussi, on a eu la visite du pasteur Luc Bussière qui nous a parlé d'éducation. C'est disponible également en audio sur le site de l'Église. C'est très intéressant. Sur la partie éducation, j'en ai parlé sur Rousseau tout à l'heure, mais voilà, sur la partie éducation, il y a vraiment beaucoup de trésors à prendre. L'éducation, l'école chrétienne, etc. Alors, si on observe un petit peu la vie de David, enfin, moi en tout cas, j'observe que en vieillissant, il change finalement pas tellement. Il ne progresse pas beaucoup dans ce domaine-là. Dans d'autres, oui, mais on va prendre dans 1 roi 1, enfin vous pourrez relire plus tard. Il a été quand même très évasif au niveau de la transmission de la royauté. Ça s'est fait vraiment in extremis. C'est Bathsheba. Hein. Marie-France, tu parlais du rôle des femmes. Sans Bathsheba, à mon avis, Salomon, on n'en parlerait plus. On ne parle pas dans ces termes dans la Bible. Donc souvent, on voit qu'il y a l'action discrète des femmes, spécialement pour des hommes d'un caractère un peu difficile et qui sont en autorité. Ben, s'il n'y avait pas, justement, là, Bathsheba était avec beaucoup de respect, beaucoup de tact, beaucoup d'amour. Et elle a quand même rappelé à David le plan de Dieu. David s'est réveillé de sa torpeur, dit bah, « oui, bah, on y va alors ». Bon, c'est un peu plus détaillé dans 1 Chronique 2.8, alors c'est 1 Chronique 28, pardon, c'est plus une cérémonie publique. Là, je pense que le message que voulait faire passer l'auteur de 1 Roi 1, c'est très elliptique, c'est un peu un résumé de pour montrer que David n'a pas beaucoup transmis. Il y a quand même, alors il donne des bons conseils, hein, mais il n'y en a pas tout au long du chapitre. Il y a quand même un peu de tout. Il y a quand même 2 appels au meurtre dedans. Sur des personnes âgées, ce que David n'avait pas réussi ou eu le courage de faire quand il était plus jeune, quand ils étaient encore dans la force de l'âge. Voilà, donc il donne à la fois des choses sur la royauté. Dans Chronique, c'est quand même plus... Il fait tous les préparatifs du temple, tout ça, c'est très bien. Mais c'est dans une cérémonie publique. Combien de temps il a pris seul à seul avec son fils, on ne le saura jamais. Mais voilà, ce que semble suggérer l'auteur de 1 Roi 1, c'est que peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Mais bon, On parlait tout à l'heure de l'action de Bathsheba pour que Salomon devienne roi et non pas Adonia. Pour autant, David, il a quand même attendu un corps de vieillir et que sa santé se dégrade avant de transmettre plus. Il distille vraiment sur la fin le meilleur. Donc on peut le voir de manière positive, on peut dire au moins il l'a fait. Et mieux vaut tard que jamais, ça c'est. Faut jamais se dire qu'on a raté quelque chose dans sa vie. Tant qu'on a quelque chose à transmettre, tant qu'on a des prières à faire, tant qu'on peut être une bénédiction pour les autres, tant qu'on peut accomplir le plan du Seigneur, eh ben, il n'y a pas d'âge, on y va, on ne se pose pas de questions. Quand on sait que c'est le plan de Dieu, il faut y aller. Voilà donc pourquoi c'est si important? Là, dans le cas de David, c'était quand même l'avenir d'Israël, l'avenir d'un pays. Il y a Dieu qui avait été assez précis sur le fait qu'il aurait toujours un successeur sur le trône et qu'il y a toujours des promesses qui sont inconditionnelles parce que Dieu est Dieu, il ne change pas ce qu'il fait, ça s'accomplira. Parfois, c'est in extremis, mais Dieu, il le sait. Parfois, c'est voilà, la personne est plus réceptive et puis ça va se faire quand même. Mais même si c'est, même si on est totalement défaillant, il pourra choisir un autre pour accomplir sa volonté. Il avait promis à Saül hein, que si restait enfin, s'il restait droit et dans la foi, bon, bah, c'était conditionnel. Saül a failli, il a choisi David. David, il a été jusqu'au bout, au moins. Voilà. Donc, y a une autre manière aussi dont Dieu nous appelle à transmettre. En fait, c'est qu'il nous a créés complémentaires. Et la transmission, c'est, il n'y a pas que de parents à enfants ou de maîtres à élèves, mais aussi la transmission à nos pères, aux gens qui sont au même niveau que nous, et notamment dans l'Église. Dans l'Église, on peut voir, si j'arrive, voilà, dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc là, Paul explique bien le rôle de la transmission et pourquoi c'est important. C'est que l'Église, elle est faite de personnes différentes et complémentaires, et que pour que le plan de Dieu s'accomplisse, eh bien, il en donne un petit peu aux uns, un petit peu aux autres, et on est tous des bénédictions les uns pour les autres. On reçoit, on donne. Donc on l'a vu déjà tout à l'heure. Donc pour revenir à David et Salomon, ben tout ça c'était quand même entre les mains du Seigneur. Ça s'est fait à la dernière minute, mais ça s'est fait. Dieu n'est jamais pris de court. Il savait ce qui se passerait dans les cœurs, dans les événements. Il compose avec nos faiblesses. Il n'est pas limité par nos faiblesses ou nos péchés ou notre inertie. Enfin, il connaît notre nature. D'ailleurs, il y a eu quelques débats théologiques par le passé concernant l'élection. Il y en a qui disaient que quoi qu'on fasse, de toute façon, tout était écrit d'avance, que Dieu, il savait ce qui se passerait, donc pas besoin de sanctification, c'est-à-dire pas besoin de chercher à devenir meilleur, les uns l'étaient déjà, les autres ne le seraient pas. Non, c'est pas ça. L'élection, c'est que Dieu connaît simplement la fin de l'histoire. Comme nous, on sait comment on finit, voilà, David, Salomon, etc. Dieu, il le sait. Et pour autant, eh bien, on recherche à entrer complètement dans ses plans. Ça ne nous est pas accessible, ce que Dieu sait. Nous, on est appelés à rentrer dans cette démarche. Dieu nous appelle, on répond, et c'est très bien de savoir que Dieu sait tout ça, mais c'est pas à nous de limiter De limiter tout ça, donc de dire que non, il y en a qui sont meilleurs que nous, et puis nous, on ne pourra pas être meilleurs. Non, si on s'améliore, Dieu savait qu'on s'améliorerait. D'ailleurs, Dieu peut utiliser des gens à la fois défaillantes, peut utiliser des gens avec beaucoup de faiblesses, et il le fait, et ils accomplissent quand même leur plan. C'est pas grave. On n'est pas. Il faut savoir qu'on est quand même le produit, là aussi Luc Bussière en parlait, de tout un tas d'influences. Il y a la culture grecque antique qui est passée par là, avec, qu'on le veuille ou non, on est quand même d'une certaine manière un peu marqué par ça, avec les hommes qui sont le jouet de Dieu au pluriel, très humains, qui jouent et qui sont que des marionnettes. Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, il nous aime, sa motivation c'est vraiment l'amour. Et il faut qu'on oublie ces schémas qui sont passés malgré nous, de la culture grecque, de la mythologie. Dieu compose avec nous. Et voilà, entre Rousseau et les philosophes grecs, on est décidément bien lotis. Tout ça, on le dépose à la croix et on laisse le Seigneur renouveler par son Saint-Esprit notre intelligence. Et on va de l'avant. Donc, Dieu ne nous rend pas visite physiquement, comme au jardin d'Éden, hein, où il venait voir régulièrement Adam et Ève. Donc, c'est vraiment, il nous a envoyé Jésus, il nous a donné la parole, il nous a donné aussi son Saint-Esprit. Et puis, on a un effort à chercher, puisque, eh bien, Jésus dit que cherchez et vous trouverez. Il y a des versets pour recevoir la sagesse et le Saint-Esprit du Seigneur. Donc finalement, Salomon, il va tenir parole dans 1 Roi 1. Il va recevoir les conseils de son père et il va les appliquer. Donc, c'est passé. Seulement, alors on n'est pas là pour juger David ou Salomon, mais il y a quand même une partie sur laquelle David n'a pas été très clair. On pourrait dire qu'il a oublié de dire, tu vois mon petit gars, tu fais pas comme moi, tu collectionnes pas les femmes, tu en choisis une seule qui aime le Seigneur de tout son cœur, aime-la, chéris-la toute ta vie, vous aurez de chouettes enfants pour lesquels vous prendrez du temps tous les jours pour les aimer et les éduquer. Non, ça, il ne l'a pas dit. Donc, Salomon s'est dit, pareil, hein, on va faire comme papa. Et il a fait encore pire en matière de nombre de femmes et tout, au point qu'elles l'ont complètement détourné de son plan sur la fin de sa vie. Ça a entraîné quand même la scission d'Israël en deux parties. Ça a fait que des problèmes pendant des années. Voilà, donc c'est important. Parfois, on passe à côté de choses importantes. On transmet, c'était super de faire le temple. Il y a plein de choses, de bonnes choses qui ont été accomplies, qui ont été faites. Mais voilà, il faut tout transmettre. On a vu, pourtant il avait quand même vu ce que ça donnait, hein, les relations entre frères, les meurtres, les disputes, Tamar. Enfin, c'est pas passé. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Bon, on n'est pas là, hein, pour faire le procès posthume de ces personnages-là. Nous, on a la fin de l'histoire, comme je disais. On a toute la Bible. On sera jugé plus sévèrement. Ils ont été précurseurs, ils ont défriché, ils nous ont donné des enseignements précieux, et Dieu le savait. C'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui. Eux, ils n'avaient pas tout sous les yeux. Et voilà, donc on sera jugé plus sévèrement, mais également, on peut corriger le tir plutôt qu'eux. Ils l'ont appris un petit peu tard. Donc j'en ai parlé un petit peu pour l'Église, mais pour la transmission horizontale, hein, de père à père. J'ai pas trop le temps de développer ce passage-là, mais il y a un passage qui, moi, me parle beaucoup dans 2 Rois 7, l'histoire des quatre lépreux qui vont sauver, hein, Israël. Dieu les utilise pour ça. Je trouve ce texte est vraiment édifiant. choisis les plus faibles. Oui. Oui. J'ai pas dit Dieu les utilise. Oui. Oui, Dieu utilise les lépreux pour sauver Israël. Oui. Ah non, on n'est pas des marionnettes, c'est poussé par le cœur hein, qu'ils ont changé. Ils ont dit ce qu'on fait, c'est pas bien. Parce qu'au début, ils prenaient tout pour eux. Et puis, ils ont eu un sentiment, une conviction de péché. En disant là, on est en train de pécher. Et puis, d'ailleurs, Dieu le voit. Et voilà, donc ils sont revenus, ils ont partagé cette information-là. Et c'est cette information-là qui a sauvé. Et Dieu le savait, puisqu'il a dit à l'officier sur lequel s'appuyait le roi. Que le lendemain, enfin, on échangerait pour tel prix, telle nourriture, telle denrée. Et puis, ça s'est accompli. Et pourtant, c'est passé par 4 lépreux à la santé défaillante et qui ont failli faire autre chose. Et pourtant, la prophétie de Dieu était là. Alors, ce ne sont pas des marionnettes, ils ne sont pas manipulés. C'est... En fait, ils n'auraient pas eu cette conviction de péché. Ils avaient peut-être raison, peut-être que Dieu les aurait punis, frappés, ils seraient peut-être morts, mais il aurait envoyé quelqu'un d'autre. Mais il savait que finalement ils se repentiraient. Donc on en revient à l'élection, à la grâce. Dieu le sait, eux ils ne le savaient pas, Israël le savait encore moins, enfin le peuple le savait encore moins, et l'officier, alors lui, il n'a pas cru, il n'a pas eu la foi, et mal lui en a pris puisque... Comme Dieu l'avait annoncé, il dit « Tu ne le verras pas ». Il s'est fait écraser par la foule, et puis il ne l'a pas vu, effectivement. Donc voilà, on est dans une société de l'information, encore plus qu'avant, on a besoin de l'information qui circule. On vit dans un monde très administratif. Si on aide les autres avec l'information qu'on a, c'est aussi spirituel que de transmettre... des principes d'éducation, des principes bibliques. C'est un tout ce qu'on peut faire pour les autres, c'est une forme de transmission, transmettre un savoir-faire. Un artisan qui transmet une manière de réaliser un ouvrage, c'est important. Eh bien, voilà, que ce soit aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine de partager notamment donc, cette information dont je parlais, ça peut, quelqu'un maintenant qui, voilà, je prends le cas, je vois, il y a pas mal de personnes âgées qui ont du mal avec Internet, les déclarations d'impôts, ce genre de choses, ou d'autres qui ont du mal à savoir qu'ils ont droit à telle ou telle aide, et qui vivent difficilement parce que, ou dans le stress, ou dans la précarité financière, alors que s'il y en a un qui a cette information, il peut la transmettre à un autre, et il peut être une bénédiction. On est dans un modèle de société quand même plus complexe qu'à l'époque. Donc il y a les questions fiscales, il y a les questions légales, il y a les questions, enfin, il y a plein de choses. Et je pense que ça fait partie aussi du plan de Dieu. On s'adapte. On va pas changer les lois. On va pas changer le. Alors c'est bien si on peut peser pour que les lois du pays dans lequel on vit soient conformes au plan de Dieu. Mais pour ce qui est de la complexité globale. C'est pas à notre niveau qu'on va pouvoir rendre les choses plus simples. Donc je vais arriver plus rapidement à la conclusion. Désolé, je n'ai pas vu l'heure passer. Voilà. Donc je ne prendrai pas un exemple, mais j'étais au bénéfice d'une information qu'on m'a donnée dans un cadre chrétien, des entrepreneurs chrétiens. Et simplement sur une information concernant les dons, ça s'est traduit par des milliers d'euros, une information qu'on m'a donnée pour la société. Et ça, c'est une dynamique entre chrétiens qui s'est opérée. Je pense que Dieu nous appelle à ça. Thomas Chauliac, hein, pour ceux qui le connaissent, voilà, qui a des choses à transmettre. Il l'a transmis à beaucoup l'autre fois lors d'une réunion. Donc, en conclusion, je pense qu'on est loin d'avoir expérimenté toutes les bénédictions liées à ce fonctionnement en réseau, où on a tous besoin les uns des autres, mais c'est aussi une manière hein, de transmettre selon le plan de Dieu. J'aurais encore beaucoup à dire pour accomplir la volonté du Seigneur. Donc si on résume, ce qu'on doit retenir de plus important dans ce message, c'est l'amour de Dieu pour nous. Il a donné son Fils par amour. Il a pris le temps de nous transmettre son amour, son cœur, son caractère, sa sagesse, des connaissances scientifiques, comment fonctionne l'être humain, etc. Il attend de nous que nous reproduisions à notre niveau cette même attitude. Ça fait partie de notre mission, afin de pouvoir faire perdurer le message de l'Évangile de génération en génération, jusqu'au retour glorieux de Jésus. De même que nous avons reçu le témoin, si on prend l'image de la course de relais, comme l'illustration, ce témoin, on peut dire que c'est le Seigneur lui-même. Donc de même, nous avons cette noble mission de transmettre à notre tour cette bonne nouvelle. Ceci afin de voir la société transformée et impacter durablement les générations suivantes. Et de nous préparer à poursuivre dans l'éternité la mission donnée originellement au Jardin d'Éden, à savoir de dominer avec Christ sur la terre et sur la création qui y vit, dans la gloire éternelle de notre Seigneur, et qu'il nous aide tous à ça. Merci. Si vous voulez approfondir, je vous ai laissé quelques petites références. Voilà.
En même temps, je vais te lancer un défi, mais peut-être à toute l'Église, sinon j'aurais pu te le dire personnellement. Tu as ouvert des voies, je trouve qu'il ne faut pas les refermer. En particulier, la question pourquoi les Français ne sont pas si bons au niveau de l'éducation. Il y a une piste qui est que dans le Nord, enfin, tout ce qui est les pays nordiques sont meilleurs. Hein, enfin, on est très mauvais dans l'enfance, hein, en général. Tous les gens vous le diront. Peut-être qu'il y a une piste parce que dans le Nord, ils sont plus protestants, ils sont plus appuyés sur la Bible. Mais le mieux, c'est peut-être de creuser cette question-là. Mais ça peut t'aider aussi peut-être à montrer pourquoi nous on est dialystes, grecs, etc. Et ceux qui sont dans la parole, eh bien, sont plus pratiques et suivent le modèle que tu as évoqué. C'est peut-être un moment, une façon de poursuivre ta réflexion.